Bon début d'après-midi sur Europe 1 et la France bouge à 13h10 avec Raphaël Duchemin. L'émission est aujourd'hui consacrée à l'obésité. 13h10, la France bouge, mais pour le moment, place à l'info sur Europe 1. Il est midi et demi, c'est votre journal de la mi-journée avec vous, Lionel Gougelot. Bonjour Lionel.
Bonjour Géraldine, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour dérouler l'actualité de ce mardi 11 août.
Tous les groupes ont un intérêt à frapper des Occidentaux, des étrangers et notamment des Français.
Les forces armées nigériennes et françaises à la recherche des terroristes qui ont abattu les humanitaires français dimanche dans la région de Niamey. On en sait plus aujourd'hui sur la personnalité de ces jeunes engagés auprès de l'organisation ACTED. Le détail dans un instant. Vladimir Poutine assure que la Russie a inventé un vaccin contre le nouveau coronavirus. Il assure qu'il donne une immunité durable. Sa propre fille se serait même fait inoculer ce vaccin. Encore quelques heures de souffrance et les températures devraient devenir plus respirable, mais en attendant...
C'est horrible. On ne supporte pas le masque, on ne peut pas le garder plus de 5 minutes sans être en transpiration totale. C'est dur, hein. Fou.
On suffoque dans les restaurants, en cuisine et en salle. Dans ce journal également, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, qui affiche clairement ses ambitions pour l'élection présidentielle de 2022. Le Liban, au lendemain de la démission de son gouvernement, le Premier ministre continue de faire face à la colère de la rue qui réclame un grand coup de balai dans la classe politique.
Vraiment, on veut que tous partent parce qu'ils font tous partie de la même mafia. Même ceux qui essayent de faire quelque chose et qui s'opposent, ils n'arrivent pas à s'imposer tellement la mafia est grande.
À suivre également dans ce journal l'évolution de la marée noire qui menace l'île Maurice. Et puis la météo, Marlène Duret, toujours de la chaleur, donc, mais une tendance qui vire un peu à l'orage.
Oui, hein. C'est cela. L'alerte à la canicule va rester en vigueur dans 68 départements, 53 en orange, 12 en rouge. Ce sont les orages qui vont progressivement mettre un terme à cet épisode caniculaire. Par l'ouest, ça commence aujourd'hui, ça va s'intensifier demain et je vous dis tout à la fin de ce journal.
Merci Marlène, on vous retrouve effectivement un peu avant le journal de 13h. Voilà pour le sommaire, place à l'actualité.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est donc une véritable chasse à l'homme qui est déclenchée au Niger pour tenter de retrouver le groupe terroriste auteur de l'assassinat des humanitaires français de l'organisation ACTED. Les forces armées nigériennes aidées par l'armée française patrouillent autour des villages et dans la brousse, notamment dans la région du sud-est de Niamey. Bonjour Mathieu Bock.
Bonjour Lionel.
Est-ce qu'on peut, Mathieu, raisonnablement penser que les auteurs de ce massacre soient retrouvés un jour?
Mais c'est vrai que cette traque s'annonce compliquée. Le territoire est immense. Les assaillants sont repartis à moto. Ils ont donc pu parcourir de grandes distances rapidement, tout en restant très discrets, notamment en se cachant sous les arbres et donc en restant invisibles pour les avions de chasse et le drone de l'armée française qui survole la zone. L'autre difficulté, a expliqué ce matin sur notre antenne Mohamed Sifaoui, le journaliste spécialiste de l'islam radical et du terrorisme, c'est que beaucoup de mouvements terroristes dans la région auraient pu commettre cet attentat qui n'a toujours pas été revendiqué.
Le chef d'Al-Qaïda Maghreb islamique a été neutralisé par les forces françaises il y a de cela 2 mois. L'État islamique dans le Grand Sahara, c'est-à-dire l'émanation locale de Daesh, s'est implanté depuis maintenant un peu plus d'un an et cherche à asseoir sa suprématie sur la région. Il ne faut pas oublier aussi que d'autres groupes beaucoup plus autonomes tentent d'exister, qu'il y a également le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui existe depuis maintenant 3 ans et qui tente de fédérer l'ensemble des organisations djihadistes. Tous les groupes ont un intérêt à frapper des Occidentaux, des étrangers et notamment des Français.
Alors pour le moment, aucune revendication. Donc l'armée nigérienne continue de ratisser la zone, aidée par des soldats français de la force Barkhane et par des techniciens en identification criminelle afin de relever le moindre indice sur la scène de l'attentat.
Merci Mathieu Bock. Alors depuis hier, on en sait un peu plus sur la personnalité, le profil de ces jeunes humanitaires tombés sous les balles des terroristes. Ils étaient tous âgés d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années. Et pour la plupart, Pauline Jacquot, ils faisaient partie de l'organisation humanitaire ACTED, donc, mais depuis assez peu de temps finalement.
Oui, exactement. Le plus jeune s'appelait Léo, il avait 25 ans selon Le Parisien, c'est lui qui était volontaire au Niger pour l'ONG, il était arrivé en avril. Stella, 28 ans, Charline, Nadifa, de jeunes trentenaires qui venaient aussi de rejoindre ACTED, Myriam, originaire de Toulouse, était-elle sous contrat depuis 2 ans à Paris, en Tunisie, au Tchad et depuis quelques mois au Niger.
Alors c'était tous des jeunes diplômés avec un engagement et des projets humanitaires bien établis.
Exactement. Nadifa préparait une thèse sur le commerce des armes à l'université d'Aix-Marseille. Élève très appliquée, nous dit son professeur. Elle avait aussi travaillé au service financier du ministère des Armées, selon son CV sur Internet. Charline, 30 ans, avait-elle obtenu un doctorat en gestion et occupait un poste à l'ambassade de France au Nigeria, selon la Provence, avant son départ au Niger. Antonin était, lui, diplômé de l'école normale supérieure de Cachan. titulaire d'un master en économie. Il était engagé dans le développement international.
Et on en sait un peu plus sur les deux Nigériens qui les accompagnaient.
Oui, le chauffeur d'Acted, effectivement, le Nigérien Boubacar Soulé, il avait 50 ans, père de 4 enfants. Et puis le guide qui accompagnait donc cette équipe d'Acted sur place s'appelait lui Aldou Kadri Gamache, 50 ans également. Il était le président des guides de la réserve de Corée.
Merci Pauline Jacquot.
Europe 1 midi 35, le journal de la suite, Lionel Gougelot.
Cette information donc qui nous est parvenue en fin de matinée à Moscou, Vladimir Poutine annonce que la Russie a développé le premier vaccin contre le coronavirus. Le président russe assure qu'il est efficace, ce vaccin, et qu'il donne, dit-il, une immunité durable. Mais pour l'instant, Elena Voloshin, vous êtes notre correspondante en Russie, pour l'instant, il n'y a toujours pas de validation scientifique. Hein.
Oui, tout à fait, Lionel. Et ce vaccin, développé par un institut d'État russe et le ministère russe de la Défense, homologué en un temps record, n'a pas manqué de soulever l'inquiétude de l'OMS. Même en Russie, l'association qui regroupe les organisations en charge des essais cliniques avait appelé l'État à ne pas l'homologuer, alors même que les essais cliniques ne sont pas terminés. En vain, Vladimir Poutine a annoncé en grande pompe ce matin le lancement, je cite, du premier vaccin au monde contre le coronavirus. Un pas important pour le monde entier, a-t-il renchéri, affirmant que sa propre fille s'était faite vacciner. Le président russe cherche donc à rassurer sa population, alors que pour lui, la primauté mondiale de ce vaccin revêtait une importance stratégique, affaiblie dans les sondages d'opinion par sa gestion de la pandémie et la récente réforme constitutionnelle. Il surveillait de près depuis plusieurs mois la course au vaccin à laquelle participe une vingtaine de laboratoires russes.
Alors, concernant ce vaccin dont la production industrielle devrait être lancée en septembre, on apprend que 20 pays auraient précommandé 1 milliard de doses de ce vaccin. Emmanuel Macron a tenu ce matin un conseil de défense consacré à la situation au Niger, mais aussi à l'évolution donc de l'épidémie du coronavirus. Le nombre de cas ne cesse d'augmenter en France, hein, 785 contaminations supplémentaires hier, avec ici ou là des EHPAD qui ont dû être reconfinés. Situation toujours fragile en région parisienne et notamment dans le département de Seine-Saint-Denis où Caroline Baudry a suivi le travail des enquêteurs de la cellule de traçage, la brigade anti-Covid de la caisse primaire d'assurance maladie de Bobigny.
Pour les cas contacts, ça va être toutes les personnes que vous avez vues sans masque, sans respecter la distanciation sociale d'un mètre.
D'accord.
Okay.
Face à son ordinateur, Mélissa commence son enquête sanitaire. Au bout du fil, une malade du virus donne les noms des personnes qu'elle aurait pu contaminer avant l'apparition des symptômes. Elles seront appelées une à une pour être prévenues et testées.
Est-ce que vous voulez garder votre anonymat ?
Non, non.
Certains ont peur, ils pensent que c'est quelque chose de mal. Ils peuvent être protégés par l'anonymat. Ça débloque énormément de situations, surtout dans le milieu professionnel.
Plus de 300 personnes sont contactées chaque jour. On s'assure qu'ils aient des masques et les moyens de s'isoler en attendant les résultats du test. L'objectif, qu'aucune ne passe entre les mailles du filet alors que le virus se propage en Seine-Saint-Denis, constate Aurélie Combasse-Richard, directrice à l'assurance maladie du département.
Alors on était début juillet à 30 cas par jour. Aujourd'hui, on est entre 80 et 100. Donc vous voyez, on a fait presque x3 en un mois. On voit vraiment que c'est reparti. Le virus, c'est vraiment une course contre la montre. Il faut vraiment qu'on arrive à boucler toutes les enquêtes en 24 heures. Il faut qu'on aille plus vite que le virus, si vous voulez.
Et pour gérer la pression face à ces nouveaux cas, 10 enquêteurs supplémentaires seront recrutés cette semaine.
Un reportage de Caroline Baudry.
Il est midi 38.
Europe 1. On marque une pause et dans un instant, nous reviendrons sur ce mouvement de panique. Hier soir, à Cannes, une quarantaine de blessés. À cause d'une simple rumeur, quelqu'un croyait avoir entendu un coup de feu. Et puis, deux morts cette nuit dans un incendie à Vincennes. Un immeuble entier ravagé par des flammes d'une rare violence. A tout de suite.
La suite du journal sur Europe 1, Lionel Gougelot.
Une quarantaine de personnes ont été blessées hier soir à Cannes, très légèrement pour la plupart, à la suite d'un mouvement de panique sur la Croisette. Un affolement général, des gens courant dans tous les sens, tentant de fuir ce qu'ils croyaient être une fusillade. Et tout cela à cause d'une simple rumeur, Marion Gauthier.
Oui, c'est devant un glacier de la Croisette qu'un différend éclate entre des clients. Et sans raison encore établie, quelqu'un se met à crier « coup de feu ». En quelques minutes, les terrasses sont vidées, des verres brisés au sol, l'intérieur des restaurants est retourné. Des vidéos amateurs montrent la foule se réfugier derrière les tables, courir, se bousculer. Les réseaux sociaux s'emballent. Un forcené occuperait le Carlton. Une voiture foncerait sur la foule. Ce Cannois pense immédiatement à un nouvel attentat.
Wesh, il y a un attentat là, je vais en gérer. Rentrez chez vous, ça sert à rien de rester dehors.
En réalité, il n'y a eu ni forcené ni détonation, rien qu'un mouvement de panique, souligne David Lisnard, maire Les Républicains de Cannes.
Je suis exaspéré de ceux qui relaient n'importe quoi, ne vérifient rien, prétendent savoir, avoir entendu, connaître quelqu'un qui sait. Et là, on rentre dans le délire total. Il va falloir vraiment qu'on arrive à appréhender ces réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, ça devient extrêmement problématique. Il y a eu 37 blessés légers, heureusement légers, mais 37 dus uniquement à un mouvement de panique né d'une fausse information.
Une partie de ces blessés a été transportée à l'hôpital. Près de 100 pompiers sont intervenus hier sur la Croisette.
Merci Marion Gauthier. Vincennes, cette nuit, dans le Val-de-Marne, tous les témoins évoquent un feu d'une rare violence. Un incendie s'est déclenché dans un immeuble du centre-ville. Il a fait deux victimes et les pompiers ont mis presque 4 heures pour maîtriser le sinistre, Guillaume Bier.
Oui, 150 pompiers déployés sur ce sinistre qui s'est déclaré vers 1h du matin et qui a donc fait 2 morts, une femme piégée par les flammes dans son appartement et un homme de 50 ans qui se serait défenestré. Un incendie d'une forte intensité, c'est ce qu'ont constaté les pompiers de Paris dès leur arrivée, raconte leur porte-parole, le commandant Guillaume Fraisse.
Le feu s'était déjà largement propagé, les flammes sortaient déjà de nombreuses fenêtres, avec de nombreux habitants aussi qui nous appelaient à l'aide aux fenêtres. Et effectivement, la priorité pour nous, ça a été bien sûr de leur porter secours, d'aller les sauver en escaladant la façade avec les échelles accrochées, les échelles à main, puisque nos grandes échelles ne pouvaient pas atteindre cet immeuble qui est situé dans une courette intérieure. La plupart des portes, d'ailleurs, des logements étaient fermés. C'est ce qu'il fallait faire. Les occupants ont bien agi, c'est-à-dire que lorsqu'un feu se déclare en dehors de son domicile, on ferme la porte, si possible, on met un linge mouillé au bas de la porte, et ensuite on ouvre les fenêtres et on se manifeste à la fenêtre en attendant l'arrivée des pompiers. Ils ont fait exactement ce qu'il fallait.
Ce matin, les pompiers sont restés sur place pour éviter toute reprise du feu. Rapidement, des enquêteurs vont prendre le relais pour trouver le point de départ de cet incendie mortel et déterminer s'il est accidentel ou criminel.
Merci, merci Guillaume Billet du service police-justice d'Europe 1. On devrait bientôt voir le bout du tunnel de la chaleur, mais la canicule continue de sévir sur l'ensemble du pays et parmi les professions qui souffrent de surchauffe actuellement, celle de la restauration, que ce soit en cuisine ou en salle. On transpire sous le masque, comme l'a constaté Élise Dangean, qui a fait le tour de quelques tables parisiennes.
Là, à l'intérieur de la cuisine, là, maintenant, 39.
Je pense 40, 45. Hein.
D'une cuisine à l'autre, à chacun son estimation de la température, 39, 40, 45 degrés. Mais pour tous, un seul et même constat, il fait chaud, trop chaud, selon Nathan, jeune cuisinier.
Bon, c'est un peu dur pour travailler.
Et même en s'éloignant des fours et autres plaques de cuisson, ça ne s'arrange pas. Face à la chaleur, les serveurs non plus ne sont pas épargnés, les plateaux sont lourds, les allers-retours incessants. Et cette année, il y a une contrainte supplémentaire à gérer, raconte Rose, le port du masque obligatoire.
C'est horrible. On ne supporte pas le masque, on ne peut pas le garder plus de 5 minutes sans être en transpiration totale. C'est dur, hein.
C'est dur aussi pour le chiffre d'affaires plombé par cette canicule, selon Ganesh, gérant d'un bistrot du 15e arrondissement.
Surtout les gens des quartiers, personnes âgées, c'est très compliqué. Et je vois un peu moins de fréquentation parce qu'ils ne sortent pas de là où ils habitent. C'est une année exceptionnelle. C'est Covid, chaleur, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver à la prochaine.
Désormais, tous attendent avec impatience le retour de températures plus douces et de clients plus nombreux.
Alors pour les températures plus douces, on verra dans quelques minutes avec Marlène Duret pour le tour des clients, ça c'est une autre histoire. La politique, la présidentielle 2022, cette fois, Xavier Bertrand ne cache plus son ambition et les mots ont le mérite d'être clairs. Au détour d'une interview chez nos confrères de Corse Matin, Claudia Bertram, bien le président des Hauts-de-France confirme, oui, je me prépare à l'élection présidentielle.
Oui, plus de doute possible, cap sur 2022. Xavier Bertrand avait déjà dit penser à la présidentielle. Durant la crise sanitaire, il a multiplié les attaques contre le gouvernement. Désormais, les choses sont claires. Xavier Bertrand se prépare donc à la présidentielle. Mais pour cela, il faut rassembler les Français, explique-t-il au journal Corse Matin. Et c'est ce qu'il compte faire avec son association La Manufacture en allant à leur rencontre. Mais le président de la région Hauts-de-France ne compte pas faire l'impasse sur les régionales. L'échéance la plus proche et la plus importante, souligne-t-il, et qui sera d'ailleurs sa primaire à lui, car pas question pour l'ancien membre des Républicains de passer par une éventuelle primaire de la droite. Je ne veux pas de filtre entre le peuple et moi, dit-il. Même s'il affirme que sa maison est à droite, il ne cherche plus à s'intégrer dans des logiques de parti qui ont fait leur temps, explique-t-il avant d'assurer. Je ne me soumettrai pas à des règles fixées par les partis politiques.
Merci Claudia Bertram du service politique d'Europe 1.
Il est midi 46.
Europe 1. On marque une pause, restez avec nous à suivre une nouvelle manifestation à Beyrouth hier soir pour réclamer un grand coup de balai après la démission du gouvernement. Nous ferons le point également sur la marée noire qui menace l'île Maurice. Et puis l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, qui joue gros demain dans le quart de finale de la Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame.
Votre journal de la mi-journée se poursuit sur Europe 1 avec vous, Lionel Gougelot.
Au Liban, après la démission de son gouvernement, le Premier ministre Hassan Diab gère désormais les affaires courantes en attendant la formation d'un nouveau cabinet. Une semaine après l'explosion du port de Beyrouth, une nouvelle manifestation antigouvernementale s'est déroulée hier dans la capitale. Nouveau heurt entre manifestants et forces de l'ordre aux abords du Parlement, notamment des opposants, qui réclament désormais un grand coup de balai dans la classe politique, Nicolas Feldman.
Eh bien, il y a d'abord ce que dit la Constitution. C'est au président de nommer maintenant un Premier ministre, à lui ensuite de former le gouvernement. Une étape ici souvent longue et faite de compromis entre les partis politiques. Et de ces petits arrangements, eh bien, les manifestants n'en veulent plus. Ce qu'ils réclament ici, c'est un gouvernement de technocrates débarrassé de ses familles politiques au pouvoir depuis 30 ans et la fin de la guerre civile. Écoutez par exemple Omar, rencontré hier soir sur la place des Martyrs.
Vraiment, on veut que tous partent parce qu'ils font tous partie de la même affaire. Même ceux qui essayent de faire quelque chose et qui s'opposent, ils n'arrivent pas à s'imposer tellement la mafia est grande. On veut un ministre qui sait ce qu'il fait, qui est expert dans son domaine, pas des gens qui sont juste attribués selon leurs relations personnelles. On veut des gens qui savent ce qu'ils font.
Et il y a urgence, car au-delà de l'explosion, au-delà de ces 220 morts, de ces milliers de blessés, de ces centaines de milliers de sans-abri, la crise économique frappe le Liban. La pauvreté touche plus d'un citoyen sur deux. Et des réformes pour plus de transparence sont attendues, exigées même par la communauté internationale pour débloquer une aide de plusieurs milliards de dollars.
Nicolas Feldman, envoyé spécial d'Europe 1 à Beyrouth. Au Bélarus, l'ancienne candidate à la présidentielle Svetlana Tikhanovskaya a quitté le pays pour se réfugier en Lituanie, craignant visiblement d'être arrêtée par le pouvoir. La rivale du président Loukachenko avait été retenue plusieurs heures hier à la commission électorale du pays où elle était venue déposer une plainte. L'île Maurice, toujours sous la menace de la marée noire et d'une catastrophe écologique. 3000 litres d'hydrocarbures se trouvent toujours dans les réservoirs du Vraquier, échoué au sud-est de l'île depuis juillet dernier. Et sur place, on s'affaire toujours aux opérations de pompage. Bonjour Jean-Luc Émile.
Bonjour.
Vous êtes chef d'édition à Radio Plus. Où en est-on ce midi de cette fuite d'hydrocarbures ?
Alors, la crainte est toujours palpable dans la population parce que hier, le chef du gouvernement avait affirmé que les risques que le Vraquier se brise en deux, voire même en trois morceaux, étaient de plus en plus importants. Et là, depuis ce matin, c'est la surveillance sur cette zone. Et donc, le chef du gouvernement avait prévu que dans l'éventualité que ce bateau se brise, les cuves intactes et qui sont demeurées intactes de ce Vraquier pourraient se retrouver sur les récifs. Donc la grosse préoccupation du moment, c'est que fait-on du moment que ça va se briser et que ces cuves se retrouveront sur le récif. Aura-t-il donc des répercussions? Est-ce que l'hydrocarbure va se répandre encore une fois dans la mer? Personne ne peut répondre à cette question pour l'heure, mais les rapports indiquent qu'il y a quand même de grandes fissures sur ce Vraquier et c'est une question d'heure maintenant que le Vraquier va se briser puisque les houles sont encore conséquentes. On parle même de houles de 2,50 m à 3 m donc en ce moment dans la région.
L'urgence, ce sont des opérations de pompage?
Oui, les opérations de pompage ont démarré depuis dimanche, hier aussi pendant toute la journée. Il y a donc un pétrolier qui a accosté la zone et qui a pu raccorder donc un câble à ce bateau pour pouvoir puiser donc le fuel. Mais la plus grosse préoccupation demeure donc que si ce bateau se brise en deux ou même en trois, compte tenu du nombre de fissures, que va-t-il se passer de ces cuves qui vont se retrouver bien évidemment sur le récif?
Alors c'est un véritable trésor écologique qui est en danger, vous le disiez, mais s'il pourrait y avoir également des répercussions économiques sur le tourisme, c'est peut-être tout l'équilibre de l'île Maurice qui est menacé aussi?
Bien sûr, parce que l'île Maurice est toujours affectée par la Covid-19, les frontières sont toujours fermées, pas de touristes chez nous, et ce coin du pays, le sud-sud-est, regorge de lieux hautement touristiques. Il y a ce qu'on appelle un parc marin qui est protégé, il y a les élevages de poissons. Il y a aussi l'île aux aigrettes qui est une île, un sanctuaire d'espèces endémiques de Maurice, des reptiles, des oiseaux, donc qui a dû être évacué. Donc du coup, cette région, au quotidien, on peut dire que dans cette région, on accueille des milliers de touristes. Il y a les bateaux de plaisance, par exemple, les bateaux à fond de verre qui emmènent les touristes sur le parc marin pour aller voir coraux millénaires. Donc c'est un trésor pour le pays qui vraiment, les opérateurs touristiques gagnent leur vie de ça. Et le lagon abîmé, les pêcheurs du coin, cette région est à 80%, donc des habitants sont des pêcheurs qui gagnent leur vie de la mer. donc ils ne pourront pas pêcher pendant un certain nombre de temps. Donc le lagon est contaminé, les poissons véritablement donc, sont affectés. Donc voilà un peu le problème de toute cette région. La question est écologique, mais aussi économique, compte tenu du fait que les habitants n'ont pas travaillé depuis le mois de mars, où le pays était en confinement. Et puis donc là, les frontières sont toujours fermées, pas un seul touriste dans le pays.
Merci Jean-Luc Émile, merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce midi, chef d'édition à Radio Plus à l'île Maurice. Merci.
Midi 53 sur Europe 1, la suite du journal Lionel Gougelot.
Le football, 21h demain soir, Lisbonne, le Stadio da Luz en portugais, ça veut dire le stade de la lumière, d'ailleurs sans doute l'un des plus beaux stades d'Europe, soit dit au passage, même s'il n'y aura pas de public. C'est là que le Paris Saint-Germain va jouer son avenir en Ligue des Champions, quart de finale contre l'Atalanta de Bergame. On continue de croiser les doigts côté parisien pour que Kylian Mbappé soit en mesure de participer au moins une partie de la rencontre. Et il y a un homme qui joue également gros dans cette rencontre, Simon Rubin. Cet homme, c'est l'entraîneur Thomas Tuchel.
Eh oui, depuis son arrivée, Thomas Tuchel, Paris n'a pas franchi le cap tant attendu. L'obsession des Parisiens, à savoir gagner la Ligue des Champions ou au moins, à minima, franchir enfin les quarts de finale de cette compétition. Et pire, l'an passé, le club était même sorti dès les huitièmes de finale. Donc, le crédit de l'entraîneur allemand s'amenuise. Et pour l'ancien joueur international et entraîneur, Reinald Pedros, Tuchel va vivre la semaine de tous les dangers.
On a l'impression qu'il a la tête sur le bio à chaque match. On attend tous les ans que le PSG soit champion d'Europe. Quand tu es entraîneur du PSG et que tu t'appelles Tuchel, tu dois savoir que, de toute manière... À chaque match de Ligue des Champions, à partir de maintenant, même un petit peu avant, si tu fais une contre-performance, tu seras amené certainement à partir.
En cas de contre-performance, on voit mal effectivement comment le Qatar pourrait maintenir Tuchel en place. Un licenciement ne coûterait pas si cher que ça au regard du budget parisien. Ce serait de l'ordre, on parle de 15 millions d'euros. Quand même, certes. Seule solution pour Tuchel, de garder sa place. Une qualification en demi-finale à minima qui n'a jamais semblé aussi essentielle.
Merci Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. Un mot encore pour vous signaler à la rubrique transfert. Tiens, l'arrivée annoncée à Lille du jeune international canadien Jonathan David. Transfert record pour le club nordiste qui déboursera 30 millions d'euros pour ce joueur en provenance du club belge de la Gantoise. Pour terminer ce journal, allez, je vous emmène à Nantes, en voyage à Nantes plus exactement, pour la 9e édition de ce festival d'art contemporain. Des œuvres visibles dans la ville. Alors au hasard de vos déambulations, vous verrez par exemple un lit à baldaquin flotter sur le canal Saint-Félix ou la façade d'un théâtre transformé en chute d'eau. Voyage à Nantes donc, c'est avec Charles Guyard.
Donc vous avez la ligne verte qui vous permet de parcourir tout le centre-ville jusqu'à Chantenay, sur l'île de Nantes.
Une ligne verte tracée à même le sol qui emmène le visiteur sur un parcours de 20 km parsemé de 125 œuvres à admirer. C'est l'objet du voyage à Nantes, un musée à ciel ouvert gratuit qu'Aurore, parisienne, est venue découvrir en famille.
On a vu déjà des petites installations dans les passages sympas. Et puis là, on monte voir les choses un peu mastoc et puis... On continue la promenade. C'est agréable, c'est cool avec les enfants.
Depuis 2011, le voyage à Nantes, ou le van pour les intimes, attire des touristes du monde entier. Mais cette année, Covid oblige, la fréquentation est surtout hexagonale, voire locale, comme Catherine qui vit ici.
Ça permet de découvrir les lieux de Nantes.
Nantes et son voyage qui va même jusqu'à abolir les frontières administratives, puisque cette année, le van a été reconnu officiellement comme destination bretonne. Jean Blaise, le directeur artistique, s'en félicite.
C'est pas politique, c'est pas idéologique. Pour nous, c'est comment faire pour que les touristes de très loin nous voient. Or, plus on s'éloigne, eh bien ce qu'on voit de la France, c'est la Bretagne, c'est un territoire très repéré avec une très forte identité.
Jusqu'au 27 septembre, le van emmène aussi le visiteur jusqu'au littoral avec estuaire ou vers Clisson grâce à un parcours dans le vignoble où, paraît-il, la ligne verte aurait parfois tendance à se dédoubler. Nantes, Charles Guyard, Europe 1.
Il nous reste à voir la météo.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
Rebonjour Marlène Duret.
Rebonjour.
Alors au programme du jour, encore de la chaleur, mais avec, vous me disiez tout à l'heure, une tendance orageuse qui commence à se développer par l'ouest.
Oui, je vous le disais déjà hier, Lionel, on ne sort pas de façon brutale de cet épisode caniculaire. C'est progressif et ce sont les régions de l'ouest qui seront les premières à voir baisser les thermomètres, déjà demain d'ailleurs. Alors on va revenir sur cette
cette carte de vigilance, 66 départements placés en alerte aux canicules, 53 en orange et 12 en rouge. Les températures de cet après-midi, sensiblement équivalentes à celles d'hier, afficheront généralement 33 à 37 degrés. 37 toujours du côté de Lyon, mais aussi dans le sud-ouest, à Montauban. On attend 36 du côté de Metz, Nancy, Colmar, Valence, Paris, 35 degrés à Lille, à Rouen, à Limoges, 34 à Bourges, au Mans, 33 à Clermont-Ferrand ainsi qu'à Marseille, 31 à Berck, 29 à Perpignan, nous aurons autour de 26 à Brest, donc pas de valeur extrême. En revanche, les nuits restent éprouvantes et en particulier dans les grandes agglomérations comme à Paris, Lille, Toulouse, on a eu 5 nuits à plus de 20 degrés, jusqu'à 25,
confirme, ouais.
Oui, vous confirmez. Et ce sont les orages qui vont donc mettre fin à cette période de forte chaleur. La dégradation orageuse sera plus organisée demain et il y aura certainement une alerte aux orages. Mais déjà cet après-midi, le tonnerre peut frapper avec le combo air chaud, peu de vent, haute pression éloignée. Mais il ne faut pas grand-chose pour déstabiliser la masse d'air. Les trois quarts du pays seront concernés. Et si ce n'est pas cet après-midi, ce sera ce soir. Il n'y en aura pas partout. Impossible de préciser où les orages peuvent frapper. Mais attention tout de même, parce que localement, on peut avoir de fortes intensités de pluie, de bonnes rafales de vent, voire de la grêle. Là où on ne sera pas inquiété, finalement, ce sera près de la Méditerranée et l'extrême-est de l'Alsace, a priori. Alors demain, peut-être que ça vous intéresse.
Ah, forcément, oui.
Donc prudence sur la moitié ouest, parce que ça va vraiment s'intensifier entre la Garonne et la Seine. Beaucoup d'orages, de fortes précipitations attendues. On pense aux campeurs, on pense aux promeneurs. Les températures vont commencer à baisser par l'ouest, donc, mais il fera encore chaud sur les deux tiers restes du pays. Et puis, le temps devrait basculer à partir de jeudi, avec des averses orageuses en alternance avec des éclaircies sur une bonne partie du pays. Encore des averses au nord de la Loire vendredi. Une moyenne de 25 degrés au nord et 30 degrés au sud.
Voilà qui est complet. Merci infiniment, Marlène Duret.
Et merci à vous, Lionel.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, 18h. Vous écoutez Europe 1.